Bien, merci Nicolas pour cette communication. Ne bouge pas, on t'envoie Eric. Et maintenant, vous allez pouvoir subir le feu des questions du public. Enfin, j'espère que vous allez avoir des questions sur ces deux coms qui sont... qui attaquent ce rapport à la banlieue de deux manières différentes. Voilà, le micro est à votre disposition.
Vous allez correctement dans le micro pour qu'on vous entende correctement.
Pas de questions ?
Est-ce que nous, on peut poser des questions à des gens dans la salle ?
Ouais.
Ah ben, pourquoi pas ?
Marçu ?
Ben, peut-être.
Non, pas toujours Marçu.
Non, non.
Alors ?
Non, mais pas de questions. Quand même, parce que... Allez, c'est parti. Une fois que c'est lancé, Elvire, de Nantes.
Bonjour, c'est une question pour le premier intervenant. La manière dont vous avez construit votre présentation, j'avais un peu l'impression que vous vous interviewez vous-même, comme si vous meniez un entretien avec vous. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'avez préparé, mais voilà, du coup, je me demandais comment vous faites pour enquêter sur vous et pour construire ce papier-là. Mais je pourrais aller plus loin pour les deux intervenants, parce que c'est la même chose. Comment est-ce qu'on se raconte en essayant de parler de plus large que soi dans une assemblée comme celle-là?
Ben, je réponds peut-être une première réponse, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà fait ça, hein, des gens qui ont fait leur autobiographie. Dans la recherche en particulier, il y a pas mal de gens qui font ce qui s'appelle l'auto-analyse ou
l'ego-histoire
aussi. Hein, voilà, récemment, François Guimau l'a fait, etc. Et je dois dire que je suis pas encore au stade où je peux expliquer comment je fais, parce qu'en fait je fais déjà, et déjà c'était un accouchement très douloureux, difficile qui m'a occupé encore une bonne partie de la nuit, parce que justement c'est difficile peut-être de parler de soi, enfin en public, raconter des souvenirs comme ça, mais c'est surtout de faire le lien, d'essayer de l'intégrer dans une réflexion plus large sur une époque, etc. C'est-à-dire quel est le rapport en fait entre ce qu'on vit à 14-15 ans quand on traîne un peu comme des milliers de gamins et une histoire plus large. Et du coup c'est pas mal cette vision effectivement de dire c'est comme si je m'interviewais moi-même. Effectivement il y a quelque chose de ça. Je pense que le travail, peut-être l'étape d'après, ça serait d'interviewer les copains avec qui j'étais, ceux que je vois, ceux que je vois plus. Un bon Larsen là qui va arriver, justement parce qu'on croit raconter une histoire déjà commune, hein, celle d'un groupe, alors qu'en fait, d'autres auraient une vision très très différente. Par exemple, ils ne se souviennent pas des mêmes concerts, ils ne se souviennent pas des mêmes anecdotes. Hein. Par exemple, mes copains, ils étaient tous plus grands, donc c'est toujours eux qui se faisaient embrouiller dans les bastons, moi jamais, tout ça. Bon. Donc il y a plein de choses qui donnent une perspective différente. Hein. Après, je pense que la difficulté peut-être, mais aussi les atouts qu'on a avec la quand on fait de la recherche ou quand on écrit, etc., c'est que justement, on essaie de mettre à distance. Mais bon, je pense qu'on ne peut pas mettre complètement à distance. Il vaut mieux assumer finalement une part de subjectivité plutôt que d'essayer de dire on va décrire de manière neutre, comme une page Wikipédia, ce que c'était. Parce que finalement, je crois qu'il y a autant de versions qu'il y a de gens qui ont vécu ça. Hein. On en a parlé un peu avec Marçu, là, effectivement. Il y a autant de mouvements punk qu'il y a de punk, en fait, qu'il y a eu de punk à différentes périodes, à différents moments, et peu de gens auront exactement la même vision. Et d'ailleurs, cette opposition en classe, etc., il faut la nuancer, parce que ces gens se côtoyaient, faisaient des choses ensemble, il y avait beaucoup de circulation, mais c'est vrai que c'est sur la longue durée qu'on voit que, par exemple, il y a des gens qui sont restés dans la musique, il y a des gens qui sont allés vers des professions qui sont peut-être un prolongement de ça, et puis d'autres qui sont revenus au monde où ils étaient, c'est-à-dire à un monde, on va dire, de prolo, de banlieue ou de province, et où... il y a ce souvenir punk, si vous lisez par les commentaires dans YouTube sur les groupes de l'époque, il y a plein de mecs comme ça qui disent « Ah là, tout à coup, je retrouve ça, ça avait disparu de leur vie parce qu'ils n'ont même plus les disques, ils n'ont plus de... ils ont pas les sources ou les liens qu'on a, nous, pour raccrocher à ça et s'inscrire dans cette histoire. » Voilà. Et donc, tout à coup, ça ressurgit. Mais en fait, les gars, ils ont des boulots de prolo dans des petites villes, etc. Ils sont ouvriers. Et c'est des expériences, pour le coup, vraiment, avec le recul, finalement, très différentes. C'était les mêmes choses, c'était les mêmes moments, les mêmes lieux. Mais je pense que chacun vivait des trucs quand même à partir de avec son background assez différent.
juste pour prolonger ta réponse, c'est quand même une question passionnante et qui se pose régulièrement, que tu évoques. Et on a quand même décidé d'essayer d'en faire un séminaire de méthodologie, c'est-à-dire travailler à l'EHESS sur ces questions en fait de... En gros, du chercheur engagé ou du chercheur qui a eu un vécu de militant ou de musicien ou artistique, etc. Donc on en fait un séminaire qui ouvre cette année à l'EHESS, un séminaire de méthodo consacré à Underground, en gros, hein, la scène punk, les cultures alternatives, et, voilà, avec Eric, Solveig et Pierre Rabou.
Et plein d'invités.
Moi, oui. Moi par rapport à la question que tu posais, alors moi, c'est toute proportion gardée, mais ça fait écho à des problématiques que j'ai eues pour ma thèse sur un autre sujet, le cinéma populaire, et je me vois en train de relire ma thèse, et à un moment donné, je me vois en train d'écrire autopsychanalyse sur la thèse en me disant, par rapport au concert, c'est que le premier réflexe, c'est j'aime ça. Même si par la force des choses, j'écoute plutôt de la musique de vieux, que je vois des groupes, ils ont tous 50 ans de plus, donc les crêtes, ils les ont plus parce qu'ils sont chauves, etc. etc. Et je me dis très vite, qu'est-ce que je peux faire pour pas être un simple public dans ces concerts-là, jouer, je sais pas, et puis il faudrait qu'on puisse vouloir de moi. Écrire, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, et puis ensuite, c'est en termes de trajectoire, voilà, j'ai pu faire une thèse là-dessus, et via peindre, j'ai pu me remettre à parler de ça. C'est un vrai questionnement quand tu te retrouves dans des salles ou dans des squats où t'as absolument, pour ma part, j'ai jamais voulu vraiment avoir le look parce que ça me faisait chier, et où tu te retrouves vraiment au bout de la banlieue dans un squat avec, je me souviens d'un squat à Gennevilliers, le Spa, où j'arrive, je veux dire, je me faisais interroger quasiment par tous les membres du public pour qui me demandaient, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu viens faire là? Est-ce que t'es un mec des RG? On me prenait pour un mec des RG parce que j'étais tout le temps avec un petit calepin et que je notais des trucs qui m'intéressaient. Oui, mais...
Ça semble être une problématique.
J'en rajoute.
Moi, je voulais vous remercier parce que je me suis vraiment reconnu dans vos deux interventions. C'est même... J'avoue que vers les années 95, quand il n'y avait plus de concerts, enfin, beaucoup moins, quand on avait l'impression que tous les groupes splittaient, on avait l'impression que tout ça allait être oublié, et voir que finalement on n'était pas tout seul à avoir une charge émotionnelle aussi forte autour de ça. Franchement, ça fait du bien, et même si, depuis on a vu que les choses ressortaient avec Internet, il y a quand même eu une période où on s'est dit on va tous mourir et il n'y aura plus de traces, et franchement ça fait beaucoup de bien. Alors, puisque vous faites ressortir des trucs incroyables, il y a peut-être juste un impensé dans l'exposé de Nicolas, c'est que tu as fait comme si tous les textes, on les comprenait dans les deux sens du terme, c'est-à-dire on les comprenait auditivement et on les comprenait intellectuellement. Et en fait, on ne peut pas mettre sous silence le fait que moi j'ai commencé La Souris un petit peu à la bourre avec Aujourd'hui et Demain, qui était quand même un disque super inaudible, surtout quand on l'écoutait sur la radio, qu'on n'était pas à côté de l'émetteur, et donc en plus le son de la radio était mauvais, ou qu'on l'écoutait dans un autoradio ou un radiocassette qui avait un son de merde. Et en fait, honnêtement, je suis nostalgique de ce son-là. C'est-à-dire que... et ça faisait qu'on n'entendait pas les paroles. Et ça nous permettait... On ne savait pas qui était Jacqueline, Isabelle, enfin... Tout ça... Et on plaquait nos histoires dessus, on remplaçait les textes, j'ai plein d'exemples, et le pire, c'est la chanson Felaga, enfin... cette chanson-là qui était la seule qui était sur aucun album avec les textes, et il a fallu attendre, je crois, 2007 ou 2008 pour que Tailuk sorte les textes et qu'on puisse, mais tout le monde, et puis l'album aussi qui avait un meilleur son, As-tu déjà oublié, et on était tous, même les plus hardcore, aucun n'avait compris les mêmes paroles, et c'était un gros moment de se confronter à chacun la réécriture qu'on a faite de ce texte-là, et je pense que c'est aussi un élément important. Au passage, ça arrive même sur une chanson de téléphone, puisque je crois me souvenir qu'il y a une chanson, tu sais, ici on aime que la bière, et en fait c'est on aime que la terre, je crois. Enfin bon, comme quoi, c'est toujours arrivé comme ça, cette espèce de distorsion d'origine du texte, et passer sur cette dimension-là de la lecture d'un texte via l'écrit aujourd'hui universitaire, où on prend le texte pur, c'est oublier toutes ces circulations qui faisaient disparaître et réécrire ce qui se passait autour.
Merci pour cette remarque. Je ne sais pas si ça
a une
réaction.
Bah, moi aussi, hein, fatalement, quand j'ai commencé à voir le groupe, donc il n'y a pas du tout très longtemps, j'ai plus vu le rythme et j'entendais même pas les paroles vu que j'avais les trois quarts du public qui chantaient par-dessus. Donc il y a un truc tout bête, c'est que l'avantage de les avoir vus beaucoup de fois, c'est de me dire, ce concert-là, je vais le faire devant pour voir comment ça fait. Cet autre concert, je vais le mettre derrière. Et il y a des fois, c'est bien d'arrêter de chanter parce que, en fait, quand on chante soi-même, on entend que ses propres paroles. On n'entend pas ce que dit le reste du groupe. Et tu parlais de projeter des choses. Même moi, dans Sur la Zone, j'ai des gens qui s'appellent Pérez dans ma famille. J'ai un François Pérez. Ça me faisait marrer de me dire que c'était le François Pérez en question, mais qui a rien de rock'n'roll. Est-ce qu'on peut dire que écouter, c'est une question que je te renvoie, est-ce qu'on peut dire que écouter ces chansons sur une vieille radio pourrie, c'est la même chose que regarder des films sur une VHS à moitié défoncée? Moi, ça me fait ça comme écho, c'est-à-dire que t'as pas forcément le choix. Si t'as envie de découvrir la chanson, t'es obligé d'avoir cette cassette-là, aussi imparfaite et aussi impure soit-elle.
Si je peux dire un truc là-dessus, effectivement, le témoignage, là, pour le coup, non pas de... Peut-être avec plus de recul de chercheur qu'à Nicolas qui fait vraiment un travail là-dessus, c'est qu'il y a plein de chansons dont je ne comprenais pas toujours les paroles ou mal. Et en fait, c'est des fois des chansons qui m'ont plus inspiré, je dirais même philosophiquement, ou qui exprimaient exactement ce que je ressentais par la musique, par l'ensemble, quoi, par la force qui sortait de ces chansons. Des fois des groupes anglais dont on ne connaissait pas les paroles, mais même des groupes français dont on n'entendait pas toujours distinctement les nuances. Voilà, grammaticale ou quoi, c'était justement, et c'est peut-être ça aussi la force du truc, c'est qu'à un moment donné, tu sais que les paroles, elles représentent quelque chose de fort pour toi, mais c'est le tout, quoi, c'est l'ensemble, et du coup tu exprimes beaucoup plus que tu intellectualises, tu ressens en fait, hein, et cette part d'émotion, elle disparaît par exemple des fois dans des travaux qui, sur le punk ou autre chose, hein, prennent effectivement les textes, un peu comme dans les études littéraires ou quoi, où on prend des textes en disant, non, ce qui nous intéresse c'est le texte, c'est l'œuvre, et pas la création de l'œuvre et tout ce qu'il y a derrière. Et moi, je me situe plus de l'autre côté, ou en pensant que l'œuvre, finalement, elle est un épiphénomène, un petit truc, finalement, par rapport à tout le reste, ou une partie visible, mais que tu peux pas. Par exemple, j'aime un article qui était pas mal sur Commando Pernod, par exemple, qui dit toute l'ironie de cette chanson, etc. Mais en fait, quand tu lis l'article, effectivement, tu comprends peut-être la chanson, mais tu perdais un petit peu, par exemple, c'est-à-dire que cette chanson, elle arrive au milieu d'un album qui a des chansons qui parlent toutes de ghetto, de banlieue, de mort, etc. Et que justement, ce qu'elle exprime, par exemple, ça va bien au-delà des paroles, en fait. Au-delà et en deçà aussi, quoi. C'est-à-dire un truc beaucoup plus simple, en fait.
Bien, merci à vous deux. Je crois qu'on peut réapplaudir nos intervenants. Merci beaucoup. Et nous allons accueillir maintenant Siourinski, qui est photographe dans le projet. Siou, où es-tu ? Tu es là, sous mes yeux. Voilà. Et qui va venir témoigner de son travail dans le projet Pind.
Tu as besoin de mon ordinateur, Siou ?
Oui, j'ai un USB. Tu t'es prêt ? Rencontre avec lui.